L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévot.
Bonjour à tous.
Bonjour, amis auditeurs.
Nous nous retrouvons pour continuer notre cheminement autour de l'Évangile pour le couple. Et nous avons, la dernière fois, nous avons regardé avec émerveillement le contenu du sacrement de mariage, sacrement du salut pour le couple. On connaît le baptême, sacrement du salut pour la personne. On ne parle pas souvent du sacrement de mariage comme le sacrement du salut pour le couple, pour l'amour conjugal. Parce que l'amour conjugal, et Jésus le dit lui-même à ses disciples, c'est effectivement, c'est quasiment impossible, c'est si difficile. Et c'est là où vraiment que ce sacrement de mariage est vraiment cet engagement de Jésus à nos côtés pour vraiment faire, pour nous aider à sauver notre couple et à réaliser nos aspirations les plus profondes. C'est un peu ce que nous avons contemplé ensemble la dernière fois, et ce qui, comme les personnes de l'aéropage de la Pentecôte à Jérusalem, voyant les disciples, ils sont stupéfaits de voir les disciples parler comme ça de Jésus, annoncer la résurrection. Et ils étaient stupéfaits et perplexes. Et pourtant, c'est la réalité. Ils disaient, mais ils sont pleins de vin doux, comme si jamais ils avaient vraiment bu un coup de trop. Et non, je crois vraiment que c'est vraiment cette chose, peut-être un peu de folie, mais qui fait que, effectivement, le Seigneur vient nous rejoindre dans le plus concret de nos vies. Pour vous illustrer cela, on va se rappeler un événement qu'on a vécu il y a quelques années. On était en mission avec des jeunes, avec des couples, avec des prêtres sur Montpellier. On avait une grande veillée le soir sur un ton un peu provocant, encore fait pour l'amour. Et on avait distribué des tracts comme ça dans la rue. Et il y avait un tract qui avait été récupéré par la Radio Bleue, Radio France locale, et qui nous avait dit, tiens, les cathos, machin, vous faites une émission sur, enfin une rencontre, une session, une veillée sur le thème tout corps fait pour le moment, ça veut dire quoi? Alors c'est fini la capote. Enfin bon, on commençait un peu à nous chercher. Et on arrive à cette radio, et il y avait une journaliste, c'était il y a quelques années, donc à ce moment il y avait la mode des crêtes un peu d'Iroquois. Elle commence un peu à nous charrier un peu sur tout l'aspect, bien sûr, toutes les images bidons et sur les chrétiens et la sexualité, etc. Et on a commencé, on était avec notre frère Daniel Ange, et on a commencé les uns et les autres à témoigner simplement et à donner vraiment le sens profond de ce qu'on percevait au niveau de la sexualité, de la relation conjugale, etc. Puis vraiment, on a dit vraiment ce qu'on portait sur le cœur. Et puis, elle avait ce côté un peu rouleuse de mécanique, si on peut dire. Et puis, au fur et à mesure, on voyait bien qu'elle écoutait de plus en plus, Et puis, à la fin, elle posait plus de questions, et elle nous laissait finir. Et après, elle a coupé le micro, et elle était très émue. Et elle nous a dit, écoutez, moi j'en suis à 100 lieues, 1000 lieues, vivre tout ça, etc. C'est pas du tout ma vie, c'est pas ma culture. Mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, ça touche mon cœur. Et cette aspiration, effectivement, moi j'aspire à tout ça. J'en suis pas là, mais j'aurais envie de vivre ça. Et vous, les chrétiens, dites et témoignez de ce sens de l'amour. On en a besoin. Allez à l'essentiel. Et c'est ça dont on a besoin. Pour reprendre un peu, on peut peut-être essayer de reprendre et faire un peu une paraphrase, un peu de ce qui est dit un peu sur l'Évangile, quand Jésus dit aux amis de Jean-Baptiste, allez voir Jean-Baptiste et dites-leur, des aveugles voient, des boiteux marchent, des lépreux sont purifiés. Et bien on aime bien nous faire une petite transposition, prendre cette liberté avec l'Évangile. Avec cette bonne nouvelle du mariage, quand il est vraiment accueilli et annoncé, accueilli en vérité, on peut dire que ça peut être efficace dans la vie des personnes, dans la vie des couples, dans la vie des personnes éprouvées. Et effectivement, que des couples aveugles voient, des couples boiteux marchent, des couples lépreux sont purifiés, des couples sourds entendent et des couples morts sont ressuscités. Et la bonne nouvelle est annoncée à des couples pauvres, de leur humanité, de leur conjugalité, pour prendre un grand mot. Et voilà, là où on ne pouvait pas, on ne pouvait plus, le Seigneur vient nous aider à puiser dans son amour, dans son salut, dans sa force. Et c'est pour ça que Jésus parle de cette témoigne dans l'évangile de Jean, que cette joie, nul ne peut vous la ravir. Et dans sa joie, et Luc rajoute, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et Jésus dit, si eux se taisent, les pierres crieront. C'est vraiment notre rôle à tous que d'annoncer que l'impossible est possible quand on accueille la plénitude de Jésus-Christ.
Alors justement, puisqu'on a vu ensemble l'importance de cette présence de Jésus au cœur de notre amour même, nous allons maintenant évoquer toute cette question de la rencontre. Mais comment fait-on pour rencontrer Jésus ? De quoi est faite cette rencontre ? Et comment est-ce que cette rencontre finalement porte du fruit pour nos vies personnelles, pour notre vie conjugale ? Qu'est-ce qui va déboucher de ce moment-là ? Donc, prenons quelques exemples de la parole de Dieu où il y a eu ces rencontres qui ont été importantes pour les personnes, qui ont changé leur vie ou changé une orientation de leur vie.
Tu peux peut-être commencer par le jeune homme riche.
Oui,
qu'est-ce qui s'est passé avec le jeune homme riche ?
Ça, pour le jeune homme riche, ce n'est pas tout à fait une rencontre facile, parce que le jeune homme riche vient voir Jésus et il lui demande justement qu'est-ce qu'il faut faire pour être au royaume de Dieu, c'est-à-dire pour acquérir cette béatitude, cette plénitude. Et Jésus l'invite, au bout d'un moment d'échange, à tout quitter pour le suivre. Et là, le jeune homme, il est dit dans la parole qu'il repart tout triste, parce qu'il avait de grands biens, et que finalement, le détachement de ces biens-là n'a pas été plus important que la perle qu'il avait trouvée en Jésus, quoi. Donc, il a renoncé à le suivre, parce qu'il y avait d'autres priorités dans sa vie qui ne laissaient pas encore la place suffisamment grande au Christ et à cette rencontre pour qu'elle soit première pour lui.
Moi, je crois que ce qui est magnifique dans cette rencontre du jeune homme riche avec Jésus, et ce qui peut être aussi peut-être la rencontre de notre couple avec Jésus, c'est que Jésus laisse une grande liberté. Est-ce que vous croyez que Jésus a couru derrière le jeune homme riche? Non, il lui a posé la question, etc. Il est reparti tout triste. Jésus ne lui a pas couru derrière. Voilà, Jésus propose. Et chacun dispose. Et ça, c'est notre grande liberté. Et effectivement, l'homme moderne, il a ce culte de cette liberté, libre, ni Dieu, ni Père, ni Maître, etc. Et nous, chrétiens, nous avons simplement à proposer. Et chacun, bien sûr, dispose. Voilà. Mais c'est aussi, comme on le disait une dernière fois, c'est ce cri de Dieu dans le jardin d'Éden, auprès d'Adam. Adam, où es-tu ? Adam et Ève, où êtes-vous ? Quelle est votre vocation ? Quelle est ta vocation personnelle ? Quelle est ta vocation conjugale ? Et après, chacun est laissé libre. C'est aussi Jésus qui dit « Je suis à la porte et je frappe. » Mais Dieu ne s'impose jamais. Si jamais je ne veux pas ouvrir, ben je n'ouvre pas. C'est ta liberté, etc. Mais comme on l'a vu l'autre jour, avec Cana, eh ben voilà, Jésus propose un fantastique bonheur en crescendo. Est-ce qu'on veut le saisir ? Est-ce qu'on ne veut pas le saisir ? C'est notre liberté, c'est le choix personnel de chacun. Simplement, ce qui est montré et illustré dans l'Évangile, c'est que si on ouvre cette porte, alors vraiment, on a accès à un bonheur qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Alors on va peut-être commencer avec un Évangile justement qui va à chaque fois nous enseigner. C'est l'évangile de l'enfant prodigue.
Oui, ce qu'on appelle aussi l'évangile du fils perdu, du fils fidèle. C'est l'histoire de fils d'un même père qui reçoivent leur part d'héritage, et l'un part avec son héritage et va le dilapider loin de la maison de son père, alors que l'autre reste dans la maison et continue à vivre cette intimité avec son père. Et puis l'enfant qui est parti avec son bien dilapide tout en plaisir éphémère et se retrouve un jour le ventre vide à garder des cochons et à regarder avec grand désir l'écuelle de nourriture de cochons, tellement il a faim et tellement il aimerait se remplir le ventre. Et à ce moment-là, dans l'évangile, il est dit, rentrant en lui-même, il se dit, Alors, nous, ces quelques petits mots-là nous semblent absolument... C'est absolument la situation, je dirais, la plus cruciale de cette histoire. C'est que finalement, c'est dans cette situation de détresse absolue, où il a faim, où il a soif, il a plus d'amis, il est seul, il a un boulot vraiment nul. Et dans cette détresse-là, il rentre en lui-même et il se souvient de l'amour de son père. Et c'est à ce moment-là qu'il va repartir vers son père et évidemment être accueilli avec un amour et une miséricorde extraordinaire. Et ce rentrant en soi-même, c'est le nœud de toute relation avec Dieu. Il faut d'abord qu'on accepte de regarder au fond de nous-mêmes ce qui fait vraiment le fond de notre cœur et l'intimité de notre situation actuelle, exactement aujourd'hui, là où on en est.
Ah, c'est pour ça que... C'est une interpellation pour chacun de nos couples, hein, qu'à un moment on se dégage de ce rythme quotidien un peu effrénant avec la famille, les enfants, etc. Mais qu'à un moment qu'on puisse personnellement et en couple rentrer en nous-mêmes pour essayer vraiment de relire les fruits, qu'on puisse effectivement évaluer, si on peut dire, discerner ce qui habite mon cœur, ce qui habite l'expérience de ma vie, l'expérience de ma sexualité, de mon affectivité, de ma relation conjugale, des hiérarchies que j'ai mis dans ma vie. Et c'est vraiment cette vie moderne nous éloigne de cette relecture, de ce retournement intérieur, de ce discernement en profondeur, en vérité. Et c'est un appel que Jésus nous adresse à chacun. Seigneur, donne-moi, donne-nous ensemble de regarder en vérité.
No one else.
donc autour de Jésus pour continuer ce cheminement pour l'évangile, pour le couple, avec aujourd'hui vraiment une attention peut-être plus particulière sur le fait que le vrai démarrage pour notre vie personnelle, pour notre vie conjugale, pour accueillir cet évangile du couple, c'est d'abord de se laisser retourner personnellement par Jésus. Si jamais nous n'accueillons pas Jésus, mais pas accueillir simplement intellectuellement, tiens, il a de bonnes idées, etc. Mais si on ne rentre pas dans cette relation personnelle avec Jésus, si on n'accueille pas personnellement dans son cœur profond la personne de Jésus, l'amour de Jésus, Jésus ne peut rien pour nous. On peut faire, pour avoir la meilleure pratique religieuse, sacramentelle, tout ce qu'on veut, etc. Si on n'a pas cette rencontre personnelle avec Jésus, cette intimité avec lui, alors on a beaucoup de mal à aller plus loin. Notre foi a beaucoup de mal à fructifier dans nos vies. C'est vraiment l'importance de cette rencontre avec Jésus. On prend le parallèle avec la rencontre amoureuse, puisque on est un couple. Moi, à un moment, Maud, elle me disait rien. C'est une fille sympathique, jolie, etc. Il n'y avait pas de problème.
Je te remercie quand même.
Et puis un jour, mon cœur a été retourné, parce que je suis tombé amoureux de Maud. Et là, ma vie a complètement changé. Et c'est à partir de cette transformation du cœur, et puis aussi qui était réciproque à un moment quand même chez Maud aussi, c'est parce que notre cœur a été retourné l'un envers l'autre qu'à ce moment-là, une histoire a pu commencer. Et c'est notre belle histoire. Pour la vie de foi, c'est pas la même chose, c'est pire. C'est-à-dire que c'est vraiment cette rencontre d'amour avec Jésus qui fait qu'à un moment, un processus est possible, un retournement est possible. C'est parce que l'enfant prodigue retourne dans son cœur, comme l'a bien expliqué Maud, vraiment, va vraiment à la racine de son cœur, va avec vraiment en face à face avec lui-même et en face avec Dieu, qu'il peut lire en vérité les choses, qu'il ne reste pas à la périphérie de lui-même. Alors on va le voir avec deux nouveaux textes, Maud.
Oui, on va parler d'abord de Zachée, qui est encore une rencontre assez significative. Bon, bien sûr, c'est un texte qui est assez connu. Moi, ce que j'aime bien chez Zachée, c'est que c'est un tout petit bonhomme, on nous dit. Donc tout petit, ça veut dire qu'il ne devait pas avoir beaucoup de facilité à s'imposer au milieu des autres. Et il entend parler de ce Jésus et il monte sur un arbre pour le rencontrer. Donc la façon qu'il a de monter sur cet arbre, c'est une curiosité que je trouve rejoint beaucoup nos contemporains. Quand ils entendent parler de quelque chose d'important, bah tiens, ils viennent voir un peu comme des badauds, voir si ça leur fait quelque chose, voir si il peut y se passer quelque chose d'intéressant pour eux, quoi, finalement. Et voilà qu'à la grande surprise de Zachée, Jésus arrivé à cet endroit, nous dit l'Évangile, vous trouverez ça dans le chapitre 19 de l'Évangile selon saint Luc. Jésus leva les yeux et dit, Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. Voilà cette interpellation de Jésus, je pense qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous. Descends vite dans ton cœur, descends vite à l'intérieur de toi-même, voici que je t'attends, que je veux demeurer avec toi. Je veux rentrer en toi, dans ta maison, dans ton lieu, là où tu demeures. Et là, je veux vivre cet instant d'intimité, de rencontre avec toi. Est-ce que tu veux bien faire ce chemin-là?
Je crois que c'est aussi ça qui est vraiment très interpellant. Zachée, descends vite. Il y a vraiment cette impatience de Jésus, à la fois avec le jeune homme riche, on voit qu'il est très patient, très distant, ça serait quand même trop fort de le dire, mais voilà, il attend. Et à la fois cet empressement de Jésus vis-à-vis de Zachée, vraiment je veux demeurer en toi, je veux habiter le cœur de ton cœur. Et c'est une invitation constante, le Seigneur peut attendre toute une vie, mais le plus tôt est le mieux. Le plus tôt est le mieux. Parce qu'effectivement, plus effectivement on accueille Jésus, ça combien de témoignages on a dans ce sens-là, plus on attend Jésus, plus effectivement, moins on connaît Jésus, à un moment, plus on peut vivre des choses douloureuses, difficiles. Et après, c'est une telle respiration d'avoir connu Jésus. Donc, le Seigneur nous laisse libres. Si jamais c'est à 80 ans que le Seigneur nous accueille et que nous rencontrons Jésus, mais c'est merveilleux, c'est génial, c'est l'ouvrier de la 11e heure et il est accueilli au royaume, comme tous les autres. Mais c'est vrai, combien disent, mais comment je n'ai pas rencontré Jésus avant? Si jamais j'avais su, vous dire, pareil, pour, comment j'ai pas rencontré Maud plus tôt, j'aurais été tellement plus heureux, j'aurais tellement fait peut-être moins d'erreurs, moins de, j'aurais moins tourné en rond à chercher la fille qui me fallait, si je peux dire. On est tous un peu dans ce sens-là. Plus tôt on rencontre Jésus, plus tôt notre cœur a trouvé son chez-soi. Parce que ce n'est vraiment que dans le Christ que nous pouvons vraiment nous reposer en paix.
Alors comme on parle certainement à des couples qui nous écoutent, je pense que la question est aussi au sein même de notre couple. Est-ce qu'on est prêt à laisser Jésus habiter, venir? Est-ce qu'on désire que cette rencontre se fasse aussi pour notre vie de couple, pour notre amour, pour que l'on puisse se laisser remplir par la grâce de la force de l'amour de Jésus, puisqu'on a expliqué longuement dans les précédentes semaines à quel point on était tous handicapés de l'amour et qu'on avait tous tellement de difficultés à aimer celui avec qui on a décidé de partager notre vie. Ben voilà, est-ce que c'est ce désir qui est en nous, on peut l'exprimer et qu'on peut se laisser toucher par cette parole de Jésus « Viens, je veux demeurer chez toi ».
Voilà, il y a un autre, peut-être un autre évangile qu'on peut prendre avant de terminer. C'est l'évangile avec Bartimée l'aveugle, et qui illustre bien aussi que bien sûr tout dépend de Jésus, mais ça dépend aussi de nous-mêmes, personnellement, de notre désir ou de notre non-désir. Jésus lui dit : Que veux-tu que je fasse pour toi ? L'aveugle répond : Rabouni, que je vois. Alors Jésus lui dit : Va, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, l'homme voit, et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 10. Et donc, c'est la question, Maud, c'est la question vraiment centrale que Jésus nous pose à chacun : Que veux-tu que je fasse pour toi ? C'est pas chacun dit : Jésus, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Non, non. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et à chacun de nous, Jésus nous dit cela. Que veux-tu que je fasse pour toi?
On retrouve un peu cette démarche qu'on avait vue chez l'enfant en prodigue. Finalement, c'est rentrer en nous-mêmes pour être capable de poser cette question à Jésus. Voilà, concrètement, Jésus, voilà, dans ma vie, voilà ce qui se passe. Voilà là où j'aimerais que tu interviennes. Donc Jésus nous pose cette question. C'est pourtant évident, un aveugle qui m'en dit, c'est évident qu'il a envie de retrouver la vue. Eh ben non, il faut qu'il passe par cette humilité de reconnaître son besoin et où est son besoin. Donc je pense que de la même façon dans nos vies conjugales, parfois, on entend beaucoup de couples qui nous disent « Non, mais nous, tout va très bien, on s'entend très bien. » Parfois, j'ai envie de dire « Mais rentrez en vous-même. Où est-elle cette soif? Où est-elle cette blessure que vous n'osez pas avouer? Ce besoin que vous avez de rentrer peut-être plus dans un dialogue de confiance, plus de confiance en vous, plus de communion, plus de facilité à décider ensemble. Tout des points d'écueil. On sait très bien que pour tous les couples du monde ont du mal. Donc, à quel moment est-ce qu'on va accepter de relire ensemble ses besoins, de les poser devant Jésus en disant « Voilà, Jésus, tu pourrais faire ça pour nous. Voilà ce qu'on attend de toi. Sur ce point-là, concrètement, on a besoin que ton salut passe et qu'il soit efficace et que ta puissance se manifeste dans nos vies concrètement. »
Voilà, et c'est là où, pour nous, c'est vraiment merveilleux de faire la transposition de cet évangile de Bartimée l'aveugle avec tant de nous tous, couples, plus ou moins aveugles, plus ou moins tocards, plus ou moins malades, et où vraiment nous sommes invités par Jésus, ensemble, à répondre à la question de Jésus. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Et effectivement, nombre peut-être de jeunes fiancés ou de jeunes couples ou de couples plus âgés après 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans de vie commune, n'entendent plus cette question que Jésus nous pose. Et parfois aussi douloureux, et moi je veux vraiment souligner cela aujourd'hui, parfois c'est un conjoint qui entend la question et l'autre ne veut pas l'entendre et refuse de l'entendre et donc encore moins d'y répondre. Et on a sans doute une pensée, une prière toute particulière pour cela. Mais il nous faut insister pour ce que nous sommes unis dans l'amour, unis dans le mariage, c'est qu'à un moment et régulièrement, quel que soit notre cheminement, nous avons à entendre cette parole de Jésus. Pour notre couple, que voulez-vous que je fasse pour vous ? et que nous puissions répondre avec foi. Jésus dit à Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. C'est pas moi, la foi, ma puissance de Jésus qui est sauvée, c'est ta foi a sauvé. Puissions-nous vraiment entendre cette parole. À très bientôt, et que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne en tout.
God the Father, and from the Master, Jesus Christ.